Je ne sais pas si vous le savez, mais chaque année en France, il y a entre 10 000 et 12 000 personnes qui se donnent la mort, soit un suicide tous les trois quarts d'heure. Le nombre de tentatives est 15 fois supérieur. Et en France, le suicide fait presque trois fois plus de morts que les accidents de la route. Le site internet suicide-écoute.fr nous explique, et je cite, qu'il y a une corrélation étroite entre le suicide et le chômage, la précarité, la pression professionnelle et le relâchement des liens familiaux et sociaux. Et ensuite, sur ce même site, en grandes lettres sur fond rouge, il y a cette explication un peu laconique, ouvrez les guillemets, on peut un jour être tenté par la mort face à des difficultés qui nous dépassent. Fermez les guillemets. Alors avant d'aller plus loin, permettez-moi juste de vous dire que si vous avez déjà été dans cette situation, ne pensez pas que vous êtes quelqu'un d'anormal. Certains des plus grands héros de la Bible ont aussi été dans cette situation, et bien avant vous. On peut penser à Moïse, par exemple. On pourrait penser au prophète Élie. On pourrait penser au prophète Jonas. Ou encore au prophète Jérémie, ou encore à Job. Mais peut-être que, sans aller jusqu'à désirer la mort, et sans doute, sans aller jusqu'à désirer la mort, vous avez certainement déjà été confronté à des difficultés qui vous dépassaient, des difficultés face auxquelles, vous vous êtes senti complètement démuni et vulnérable. Peut-être que vous avez été dans ce tunnel dont on a du mal à distinguer la sortie. Peut-être même que vous y êtes encore aujourd'hui dans ce tunnel. J'ai une bonne nouvelle pour vous. La Bible en parle. C'est déjà une bonne nouvelle, non? La Bible parle de cette situation. Et elle en parle notamment dans le passage qu'on va lire et étudier aujourd'hui, à savoir le psaume 121. Un texte plutôt bien connu, vous allez le voir, où l'auteur aborde précisément cette question, la question suivante. Comment faire pour avancer quand on est dans l'adversité? Comment faire pour avancer, pour continuer quand on est dans l'adversité? Et la réponse est simple, précise, mais radicale. Écoutez bien. Toi, chrétien, sache qu'en tout temps, tu es entre les mains de Dieu qui t'est favorable. Toi, chrétien, sache qu'en tout temps, tu es entre les mains de Dieu qui t'est favorable. Et c'est là toute la leçon de ce psaume qu'on va lire maintenant. Et vous allez voir que ce psaume peut se diviser en deux parties. Vous avez le détail dans le bulletin. Une première, plutôt courte, où l'auteur exprime une conviction fondamentale. Et ensuite, une deuxième, un peu plus développée, un peu plus longue, où l'auteur exprime une confiance étonnante. D'accord? D'abord, une conviction fondamentale et ensuite une confiance étonnante. Et je vais laisser Jonathan venir au pupitre pour faire la lecture.
Je vous invite à lire le psaume 121 avec moi. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à toujours.
Merci. Je vous invite à la prière. C'est encore un privilège de pouvoir lire et étudier la Bible, Seigneur, que tu as toi-même inspirée. Veuille, s'il te plaît, l'utiliser maintenant pour nous faire grandir dans notre foi, Seigneur. Bénis la prédication de ta parole et applique ta vérité à notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Toi, chrétien, sache qu'en tout temps, tu es entre les mains de Dieu qui t'est favorable. C'est vraiment la leçon que j'aimerais qu'on retienne. Mais dans ce texte, le psalmiste commence son poème avec une conviction fondamentale qui est la suivante. Si ton épreuve te dépasse, sache que Dieu dépasse ton épreuve. Si ton épreuve te dépasse, sache que Dieu dépasse ton épreuve. Hein. Le premier verset de ce psaume, c'est vraiment la description d'une situation de détresse. Une situation dans laquelle l'auteur a besoin d'être secouru. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra ? C'est la question qui suit. D'où me viendra le secours ? Et je pense vraiment qu'ici, les montagnes représentent un environnement hostile. Il y en a certains qui ont voulu nous dire que dans ce psaume, les montagnes, c'est plutôt quelque chose de positif. Bon, vous vous ferez votre propre idée, mais moi je pense que les montagnes décrivent ici plutôt un environnement hostile, un environnement dangereux. Ce ne sont pas les montagnes des cartes postales, hein, ce ne sont pas les montagnes des calendriers de la bonne semence, d'accord ? Ce ne sont pas les montagnes qu'on regarde de loin et qui agrémentent le paysage. Ce sont les montagnes au pied desquelles on se sent extrêmement petit et vulnérable. Et le psalmiste, vous voyez, il doit lever les yeux pour les regarder d'ailleurs. C'est que vraiment elles sont impressionnantes ces montagnes. C'est l'image, ici, au premier verset, de quelqu'un qui se sent complètement dépassé par son environnement. Cet été, avec Suzanne et les enfants, on a fait du camping dans les Alpes, et un jour, à l'heure du déjeuner, il y a eu un grand éboulement qui s'est produit sous nos yeux, dans un fracas et un nuage de poussière impressionnant, et on a vu des blocs de granit de la taille de voitures qui sont tombés, qui ont dévalé la pente à quelques centaines de mètres seulement de nos tentes. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, tout le monde dans le camping était figé et resté figé pendant plusieurs minutes. Vous voyez, le psalmiste fait face à ce genre de montagne, hostile, dangereuse, impressionnante, devant lesquelles on se sent tout petit. Et étant dans cette situation, le psalmiste n'a qu'une question sur les lèvres. D'où me viendra le secours ? Mais remarquez bien que la réponse ne se fait pas attendre, hein. Avec la répétition du mot « secours » juste après, au début du verset suivant, on a l'impression que la réponse coule de source presque, qu'elle apparaît pour le psalmiste comme une évidence. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de la part de l'Éternel. Mais ce qu'il faut remarquer aussi dans cette réponse, c'est que ça ne s'arrête pas après le mot « l'Éternel ». Il y a une proposition subordonnée, relative. Ceux qui font de la grammaire, vous savez ce que c'est, hein, surtout les jeunes, là. Hein. Ce n'est pas que le secours vient de l'Éternel, point final. Le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je veux qu'on comprenne une chose ici. Je pense que c'est ça que le psalmiste veut qu'on comprenne. C'est qu'il y a une logique à cette réponse. Une logique merveilleuse. Qu'est-ce qui pourrait bien délivrer le psalmiste de cette montagne menaçante ? Bah, pas grand-chose, sinon... Bah, celui qui l'a créé, la montagne. Vous voyez la logique ? Le psalmiste ne réfléchit pas très longtemps à la question. Hein. Il fait face à des problèmes insurmontables, et pour que le secours soit possible dans ces circonstances, il faudrait donc nécessairement que ces problèmes insurmontables soient eux-mêmes soumis à une puissance et à une autorité supérieure qui serait susceptible d'intervenir. S'il n'y en avait pas, il n'y aurait aucun secours de possible. Et il n'y a qu'une seule volonté qui dépasse ce qui dépasse l'homme. Et forcément, ce n'est pas la volonté de l'homme. C'est la volonté de Dieu. C'est presque un syllogisme, ça. Alors, ces deux premiers versets décrivent un changement de perspective, à mon avis. Au premier verset, le psalmiste lève les yeux... Et son regard s'arrête sur les montagnes. Mais au deuxième verset, les yeux se lèvent un peu plus pour contempler celui qui a créé les montagnes. Et donc le point de vue du psalmiste change radicalement entre le premier verset et le deuxième verset. C'est fort, hein ? Il y a d'ailleurs un certain nombre de films qui sont sortis ces dernières années qui exploitent cette idée du changement radical de perspective sur le monde. Alors je ne sais pas, si vous êtes de ma génération, vous avez certainement vu le film... Last Action Hero, avec Arnold Schwarzenegger qui est sorti au début des années 90. Je sais que certains d'entre vous n'étiez pas nés, ça fait drôle de dire ça, mais... Bon, bref, c'est l'histoire d'un jeune garçon, un fanat de cinéma, qui un jour reçoit un billet magique, un billet de cinéma magique, et grâce à ce billet magique, il est propulsé à l'intérieur du film. D'accord ? Et il est dans ce film aux côtés de son héros préféré, incarné par Arnold Schwarzenegger. Et grâce à ce petit garçon qui vient donc du monde réel, et au fur et à mesure du film, le personnage, incarné par Schwarzenegger, prend conscience qu'il est en fait le protagoniste d'une histoire écrite par un scénariste, et que, en fait, toutes les circonstances de sa vie sont contrôlées par l'auteur de cette série de films dont il est le héros. Okay ? Il prend conscience de ça au fur et à mesure du film. C'est un changement, vous voyez, un changement radical de perspective sur sa personne et sur son histoire, à ce bonhomme qui est incarné donc par Schwarzenegger. Il y a d'autres films comme ça. Vous avez peut-être vu le Truman Show avec Jim Carrey, qui raconte l'histoire d'un homme qui, depuis sa plus tendre enfance, fait partie, à son insu, d'une émission de télé-réalité. Il est filmé 24 heures sur 24, mais il ne le sait pas. Dans un environnement artificiel dont les moindres événements sont contrôlés en temps réel par le réalisateur qui appuie sur des boutons, qui tire des manettes, tout ça. Et un jour, il découvre la vérité. Changement radical de perspective sur le monde, sur sa personne. On peut aussi, bien sûr, penser à la série de films Matrix, hein, où certaines personnes privilégiées découvrent que le monde dans lequel les êtres humains vivent est en fait un monde virtuel. Changement de perspective radical sur le monde. Bref, si vous avez déjà vu ce genre de film, vous pouvez comprendre ce que c'est qu'un changement radical de perspective sur le monde. Et ce psaume, je pense, nous invite à dans un premier temps en tout cas, à faire l'expérience de ce changement de perspective. Les montagnes vers lesquelles nos yeux se lèvent, ce n'est pas tout, ce n'est pas la fin de l'histoire. Elles sont l'œuvre d'un créateur. Levons les yeux un peu plus haut et voyons ces montagnes sous un autre angle. Vous voyez que l'affirmation contenue dans ces deux premiers versets a presque un caractère proverbial. C'est une conviction fondamentale pour le psalmiste. Vraiment, c'est une conviction fondamentale qui nous livre en introduction. Si ton épreuve te dépasse, sache que Dieu dépasse ton épreuve. Et cette perspective sur le monde et a fortiori sur nos épreuves, c'est quelque chose en fait qu'en tant que chrétiens nous affirmons à chaque fois que nous récitons le credo ou le symbole des apôtres, comme on l'appelle. À chaque fois que nous disons en introduction, d'ailleurs c'est la première proposition du symbole des apôtres, « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel » et de la terre. On est en train d'affirmer cette perspective-là sur le monde, que les montagnes ne sont pas tout, que si nos épreuves nous dépassent, il y a un Dieu qui dépasse nos épreuves. Voilà ce qui conditionne donc notre perspective sur toute chose, c'est qu'il y a un Créateur, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Voilà ce qui conditionne notre perspective, notamment sur les circonstances pénibles que nous sommes tous appelés à traverser parfois. Ces circonstances devant lesquelles nous nous sentons bien souvent complètement démunis, hein, et vulnérables. Donc je lève les yeux vers mon cancer, par exemple. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a tissé ensemble toutes les fibres de mon être. Je lève les yeux vers mon chômage et ma précarité. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel à qui appartiennent l'or et l'argent, comme dit l'Écriture. Je lève les yeux vers le gouvernement inique de mon pays. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a institué et qui institue toute autorité dans ce monde. Je lève les yeux vers les conflits et les guerres. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui gouverne souverainement l'histoire des hommes. Voilà la conviction fondamentale du psalmiste. Si ton épreuve te dépasse, sache que Dieu dépasse ton épreuve. Mais il y a un problème. Il y a un problème. On peut tout à fait, comme le psalmiste, avoir la conviction qu'il y a un Dieu qui dépasse nos problèmes. On peut avoir la conviction que nous sommes les personnages d'une histoire qui a un scénariste souverain, qui gouverne les circonstances. On peut avoir la conviction que si secours il y a face à l'adversité, ce secours ne peut venir que de Dieu qui est plus puissant que cette adversité. On peut avoir cette conviction. Mais voilà le problème, voilà la question. Est-ce qu'on peut vraiment compter sur Dieu ? Il est tout puissant, mais est-ce qu'il est bien disposé à notre égard ? Là est toute la question finalement maintenant. Il est tout puissant, mais est-ce qu'il est bien disposé à mon égard ? Il a la capacité de me secourir, mais est-ce qu'il en a la volonté ? Eh bien, c'est à cette question que la deuxième partie du psaume semble répondre. Après avoir exprimé une conviction fondamentale, le psalmiste va maintenant exprimer une confiance étonnante. Une confiance étonnante. Le texte nous a fait comprendre dans les deux premiers versets que nous n'étions pas à la merci de nos épreuves, mais que nous étions à la merci de Dieu. D'accord ? Suivez bien. Ça, c'est la conviction fondamentale. Nous ne sommes pas à la merci de nos épreuves, mais nous sommes à la merci de Dieu. Mais la confiance du croyant qui vient s'ajouter à cette conviction, c'est la suivante. Si tu es à la merci de Dieu, sache qu'en Jésus, tu as la merci de Dieu. La merci, ça veut dire la faveur ou la grâce. D'accord ? Ou pour le dire autrement, si tu avances à la faveur de Dieu, et non pas à la faveur de tes épreuves, si tu avances en fait, en fin de compte, à la faveur de Dieu, sache qu'en Jésus, tu avances aussi avec la faveur de Dieu. Pas seulement à la faveur de Dieu, mais avec la faveur de Dieu en Jésus. Les versets 3 à 8, donc c'est le reste du psaume, hein, constituent l'expression poétique de la confiance du psalmiste. Et là, il insiste sur un concept en particulier. C'est que Dieu garde le croyant. Dieu garde le croyant. D'ailleurs, le verbe « garder » est répété 6 fois en 6 versets. Et entre parenthèses, ça c'est une des caractéristiques qui semble y avoir entre les différents psaumes qui alimentent cette série, à savoir les psaumes dits des montées, ou les cantiques des montées ou des degrés. Comme je vous disais la dernière fois, on n'est pas vraiment sûr pourquoi ils portent ce nom, mais c'est vrai qu'on peut discerner parmi ces psaumes certaines caractéristiques qui leur sont communes. Et une de ces caractéristiques, c'est que parfois il y a un mot qui est répété pas mal de fois, et qui ponctue le psaume. Et donc ici, ce serait le verbe « garder » qui est répété ici 6 fois en 6 versets. L'idée générale, à travers tous ces versets qui se succèdent, toutes ces affirmations, l'idée générale, c'est que les croyants sont toujours et partout sous la bienveillante protection de Dieu. Toujours et partout. D'accord ? Donc il l'exprime d'une façon poétique ici. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette insistance du psalmiste est un peu démesurée quand même ? Enfin, quand il dit « Il ne permettra pas que ton pied chancelle », verset 3, verset 6, « Il ne permettra pas que le soleil te frappe, ni même la lune pendant la nuit ». Ne pensez pas que c'est un peu démesuré comme insistance ? Ou encore verset 7, là il est carrément catégorique, « L'Éternel te gardera de tout mal ». Vraiment ? Vraiment ? Alors, levez la main maintenant si depuis que vous êtes chrétien, vous avez arrêté d'avoir des problèmes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Que ce texte dit des mensonges ? Est-ce que c'est un texte non inspiré qui a été inclus par erreur dans la Bible ? On devrait peut-être l'enlever. Enfin, est-ce que l'auteur de ce psaume est vraiment en train de dire que quand on est croyant, on est débarrassé de toute épreuve et de toute souffrance ? Est-ce que c'est ce qu'il croit ? Peut-être que le gars, c'est un illuminé. Il le croit peut-être sincèrement. Est-ce que c'est l'expérience qu'il a faite lui-même, le gars qui a écrit ce psaume ? Bien sûr que non. En fait, personne ne l'aurait jamais pris au sérieux s'il avait prétendu cela. Hein, il suffit d'un brin de lucidité pour comprendre que ça ne peut pas être cela que l'auteur veut dire. Évidemment, l'expérience le prouve. L'auteur ne veut pas dire que les croyants sont immunisés contre le mal. Il dit qu'ils sont gardés du mal. Ils sont gardés du mal. Ce que l'auteur veut dire, c'est que quoi qu'il arrive, le croyant est en fin de compte en parfaite sécurité. Quoi qu'il arrive, le croyant est en fin de compte en parfaite sécurité. Les problèmes sont une réalité, même dans la vie des croyants. Peut-être même tout particulièrement dans la vie des croyants. Puisque c'est par beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Hein. Mais en fin de compte, ce ne sont pas les problèmes qui gagnent, c'est Dieu qui gagne. Ce n'est pas le mal qui triomphe du croyant, mais c'est Dieu qui triomphe du mal en faveur du croyant. Alors imaginez que vous soyez un fervent amateur de tableaux de très grands maîtres, d'accord ? Et un jour, vous vous rendez à une vente aux enchères à l'autre bout du monde, où l'on propose le tableau que vous avez toujours voulu posséder. Un tableau plus beau que tous ceux que vous ayez jamais vus de votre longue expérience d'amateur et collectionneur d'art. Vous êtes donc déterminé à l'acheter, ce tableau. Alors, bien sûr, c'est un tableau d'une grande valeur. Les enchères montent, elles montent, elles montent encore, mais vous surenchérissez encore, 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 jusqu'à ce que votre offre atteigne plusieurs millions d'euros et que plus personne ne peut rivaliser. Adjugé, vendu. Le tableau est à vous. Ah, mais vous, d'accord, vous y avez mis toute votre fortune. D'ailleurs, vous y avez même engagé la vente de tous vos autres tableaux, de toute votre collection, y compris de la plupart de vos biens les plus précieux. Mais vous l'avez fait sans aucun regret. Sans aucun regret. Ce tableau-ci, c'est la pièce que vous cherchiez depuis toujours. Mais avant de pouvoir le suspendre au milieu de votre séjour pour être admiré par tout le monde dans la maison, il va falloir maintenant le ramener chez vous. N'oubliez pas que vous êtes allé à l'autre bout du monde, hein, de trouver ce tableau. Et c'est un voyage long et difficile, il y a beaucoup d'obstacles sur le chemin, beaucoup de dangers, beaucoup de circonstances à traverser où le tableau risque d'être endommagé, voire même perdu. Mais votre détermination est telle. Le prix que vous avez payé pour avoir ce tableau est tel que vous allez accompagner ce tableau à chaque instant du voyage. Vous n'allez pas le lâcher du regard. Vous allez dormir, avec un œil ouvert. Vous allez ranger le tableau sous votre oreiller. Vous allez peut-être l'attacher à vous avec une chaîne, un cadenas. Vous allez le porter certainement vous-même la plupart du temps, quoi qu'il arrive pendant le voyage. Que le tableau soit secoué, d'accord ? Qu'il soit froissé, qu'il fasse l'objet de tentatives de vol par des brigands sur le chemin. Vous allez faire en sorte que le tableau arrive entier à destination. Pourquoi ? Parce que vous y avez mis toute votre fortune. Fortune, et vous y êtes attaché, comme à la prunelle de vos yeux. Eh bien, c'est à cela que ressemble la relation de Dieu aux croyants. Écoutez ce que dit la Bible. Le partage de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est sa part d'héritage. Il l'a trouvé dans un pays désert, dans un chaos hurlant et aride. Il l'entourait. Il en prenait soin. Il le gardait comme la prunelle de son œil. Alors tout à l'heure, on posait la question. Dieu est tout-puissant, d'accord, mais est-ce qu'il est bien disposé à mon égard? J'aimerais bien savoir. La réponse est oui, il est bien disposé à l'égard des croyants. Comment peut-on en être sûr? Comment peut-on être sûr que Dieu Tout-Puissant est bien disposé à l'égard des croyants? Il suffit de regarder ce qu'il a payé pour faire de nous son héritage, son trésor, sa possession la plus précieuse. Et qu'est-ce qu'il a payé? Il a donné ce qu'il avait de plus cher. Il a donné son Fils, hein, le Seigneur Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu qui a accepté de donner sa vie en rançon pour nous délivrer de nos péchés, pour que nous soyons délivrés de nos péchés et pour que nous puissions être attachés non pas au mal ou à toute puissance qui nous est hostile et qui veut nous faire du tort, mais pour que nous soyons attachés au contraire. Non pas à tout cela, mais pour que nous soyons attachés au contraire et par un lien indéfectible à Dieu qui a triomphé de tout cela, du mal et de toutes ces puissances qui veulent nous nuire. La victoire de Dieu sur toute puissance hostile a été scellée lorsque Jésus est sorti vivant du tombeau, en vainqueur. La Bible dit que c'est à lui que nous appartenons. Si nous lui faisons confiance. C'est à lui que nous appartenons. Si nous avons placé notre foi en lui, si nous avons, pour reprendre une expression de la Bible, si nous avons embrassé le Fils, c'est-à-dire Jésus. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, si tu es à la merci de Dieu, sache qu'en Jésus, tu as la merci de Dieu. Ou comme on l'a dit aussi, si tu avances à la faveur de Dieu, sache qu'en Jésus, tu avances aussi avec la faveur de Dieu. Une faveur certaine et constante, car elle est garantie par le sang infiniment précieux de Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu. Il y a donc dans ce psaume, premièrement, une conviction fondamentale. Si ton épreuve te dépasse, sache que Dieu dépasse ton épreuve. Et ensuite, deuxièmement, il y a une confiance étonnante. Si tu es à la merci de Dieu, sache qu'en Jésus, tu as la merci de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire alors, en ce qui concerne les difficultés insurmontables auxquelles vous faites face régulièrement, auxquelles vous faites face peut-être même aujourd'hui? Et si ce n'est pas aujourd'hui, ça va venir. Parce qu'on est tous appelés à faire face à des difficultés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi qu'il vous arrive, si vous aimez le Seigneur Jésus, vous êtes en fin de compte en sécurité. Vous êtes en fin de compte en sécurité. Vous êtes en sécurité parce que celui qui gouverne l'histoire du monde vous garde. Il vous garde. Rien ni personne ne peut vous ravir de sa main, pas même vos propres péchés. Beaucoup de choses dans la vie continuent pourtant de nous faire du mal, alors que nous sommes chrétiens. Beaucoup de choses nous découragent. Beaucoup de choses nous pèsent et nous culpabilisent. Beaucoup de choses nous paraissent insurmontables. Beaucoup de choses nous intimident. Beaucoup de choses nous paralysent même parfois. Mais Dieu a déjà triomphé de ces choses par Jésus-Christ. Il a déjà triomphé de ces choses par Jésus-Christ et il l'a fait pour nous. Ça veut dire que ces choses-là ne vont pas triompher. Elles ne peuvent pas triompher. Elles ne peuvent pas, c'est impossible. Dieu les a vaincues en Jésus-Christ. Elles ne peuvent pas triompher de vous. Ce n'est pas possible. Et même si votre maladie ou votre addiction ou votre dépression vous semble être une cause perdue aujourd'hui, je vais vous dire une chose. C'est un mensonge du diable. Le tunnel a une sortie. Et un jour, tôt ou tard, vous allez passer par cette issue, par cette sortie. Cherchez donc aujourd'hui la face de Dieu. Tournez-vous vers lui dans la prière. Dites-lui, comme le psalmiste, dites-lui vos luttes, vos détresses. Épanchez votre cœur en sa présence. Méditez l'évangile, méditez cette bonne nouvelle de la croix où Jésus a payé le prix le plus élevé pour que vous lui apparteniez et pour que vous ayez part à son héritage, à l'héritage du Fils éternel de Dieu, vous vous rendez compte? Et vous redécouvrirez, si vous faites ça, vous redécouvrirez ce qui est vrai. Vous pourrez arrêter de croire les mensonges du diable et croire la vérité de Dieu. Et c'est cette vérité qui vous rendra libre, à savoir qu'en Jésus, vous êtes déjà juste aux yeux de Dieu, en vertu de ce que Jésus a fait une fois pour toutes. En Jésus, vous êtes infiniment précieux pour Dieu. Infiniment précieux pour Dieu. En Jésus, Dieu ne va jamais, sous aucun prétexte, vous abandonner. Et il ne va certainement pas vous déshériter. Jamais. Sous aucun prétexte. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni les êtres d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. C'est ce que nous lisons dans l'Épître aux Romains. Alors on s'était posé la question en introduction. Comment faire pour avancer quand on est dans l'adversité? Et la réponse, on l'a vu, simple, précise, radicale. Toi, chrétien, sache qu'en tout temps, tu es entre les mains de Dieu qui t'est favorable. Tu es entre les mains de Dieu et Dieu t'est favorable. Il est favorable aux croyants. Alors comment conclure sinon avec ces paroles de l'apôtre Jude? La conclusion, en fait, de sa courte épître. à celui qui peut vous préserver, c'est-à-dire vous garder, à celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, soit gloire, majesté, force et autorité dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Je vous invite à la prière. Merci notre Dieu, notre Père, pour la sécurité que nous avons en ton Fils Jésus-Christ. Merci pour la façon dont le psalmiste dans ce texte nous en parle, de façon poétique, exaltée. Seigneur, aide-nous, nous aussi, au quotidien, à avoir ce sens profond, cette conviction profonde de la relation que nous avons à toi et qui est indéfectible en vertu de ce que Jésus a fait pour nous. Aide-nous, s'il te plaît, par la puissance de ton esprit et au nom de Jésus. Amen.